Une petite anecdote sur mon entrée au cadre noir et dans cette institution. Je sortais de faire mon service militaire et j'avais postulé, bien évidemment, ici au cadre noir pour pouvoir y rentrer. Et le directeur de l'époque, le général de Mont-Saint-Prix, m'avait gentiment répondu que j'étais un peu jeune, qu'il fallait encore que je fasse mes armes, et puis qu'il gardait ma candidature. Et donc, j'avais postulé pour un autre emploi dans les îles. J'avais acheté tout ce qui allait bien pour partir dans les îles et dispenser l'équitation. Et je me suis retrouvé avec mon chef de corps de l'époque qui m'a convoqué en me disant « Voilà, le colonel Durand, écuyer en chef du cadre noir, a retenu votre candidature pour venir ici, à Saumur, travailler aux jeunes chevaux avec un écuyer de l'époque qui s'appelait Monsieur Le Chevalier et qui était un grand maître des jeunes chevaux. Cette opportunité va pas se présenter 50 fois. Vous avez une heure pour prendre votre décision. C'est soit les îles, la mer et le soleil ou Saumur. » Bon, il m'a fallu 3 minutes pour réfléchir et depuis 40 ans, je suis ici dans cette institution. Bonjour, c'est Patrick. Je suis écuyer au cadre noir de Saumur.
Je suis...
Le podcast des métiers insolites et méconnus.
Et des personnalités inspirantes.
Salut Patrick, comment ça va ?
Parfaitement bien.
Je te remercie de m'accueillir au cadre noir de Saumur.
C'est un plaisir.
Alors le cadre noir de Saumur, pour nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le prestige de la France, certes. On est dans le cheval, mais peux-tu nous le présenter s'il te plaît Patrick ?
Le cadre noir de Saumur, c'est le corps des enseignants du cadre noir. Le cadre noir, c'est un corps d'écuyers, principalement de haut niveau, qui pratique l'équitation dans un cadre plutôt protégé pour pouvoir expertiser tout ce que l'on peut faire autour du cheval et de l'enseignement.
À la base, je crois que c'est d'inspiration militaire.
Au départ, oui, il fallait faire en sorte de ne pas se tromper entre un apprenti cavalier militaire et leurs instructeurs. Donc pour les différencier, ils les ont habillés en noir.
Car si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu es écuyer du cadre noir de Saumur.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un écuyer du cadre noir de Saumur ?
Au quotidien, un écuyer du cadre noir, c'est plusieurs missions. Chaque écuyer a entre 2 et 3 missions. Une mission de prestige, c'est-à-dire les présentations du cadre noir, préparer les chevaux pour ces fameux galas. La deuxième mission est une mission d'enseignement. Nous devons enseigner à des futurs professionnels qui sont entre une moyenne d'âge entre 20 et 30 ans. Donc les futurs dirigeants et enseignants de centres équestres. Et la troisième mission est une mission sportive et de recherche, c'est-à-dire qu'au travers du sport, on mène tout un tas de recherches qui tournent autour du cheval et de ses pratiques.
Alors toi, je crois que tu es rentré dans le cheval, ou plutôt tombé dans le cheval, si je puis dire, il y a quelques années.
On pourrait dire quelques décennies, oui, en Normandie, où j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'éleveurs et de cavalier de l'époque et apprendre mon métier, entre parenthèses, derrière le cheval, à m'occuper principalement au départ du cheval.
Alors à la base, c'est une passion, c'est un coup de chance, ces rencontres, ou tu viens d'une famille où tout le monde monte à cheval.
Alors je dirais qu'au départ, c'est un vrai coup de chance, puisque mes parents étaient parisiens, mon père travaillait dans l'aviation, maman était comptable, donc rien à voir avec l'équitation. Simplement, j'avais une grande passion pour la nature et l'opportunité d'aller passer un concours pour devenir palefrenier soigneur ou haras du pin s'est présentée à moi. J'ai préparé et passé le concours, j'ai été reçu et la filière m'a ouvert les portes et je suis dedans maintenant depuis bientôt 45 ans.
C'est-à-dire, tu rentres à quel âge exactement ?
Au Haras du Pin, on y rentrait à 15 ans après être sorti de 3e, c'est-à-dire avec le BEPC en poche. Et on a suivi ensuite un cursus études, sport, métier du cheval.
Alors ton évolution en 45 ans, comment ça s'est passé ? Parce que pour moi, le cadre noir de Saumur, c'est vraiment la classe internationale, mais qui représente la France. Et je crois que la renommée est tout à fait mondiale. Comment tu as évolué pour arriver aujourd'hui à ce poste d'écuyer ? Comment ça s'est passé? Et puis, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes et nous dire ce que tu fais, finalement, au quotidien? Tu nous as rappelé les 3 missions, mais tout à l'heure, hors antenne, tu me parlais de longues graines, de choses comme ça, des mots très techniques, et le cheval est un un univers ultra technique. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, déjà comment tu as évolué, puis ensuite nous donner quelques anecdotes sur ce que tu aimes dans ton métier, par exemple?
Une petite anecdote sur mon entrée au cadre noir et dans cette institution. Je sortais de faire mon service militaire et j'avais postulé, bien évidemment, ici, au cadre noir, pour pouvoir y rentrer. Et le directeur de l'époque, le général de Mont-Saint-Prime, avait gentiment répondu que j'étais un peu jeune, qu'il fallait encore que je fasse mes armes, et puis qu'il gardait ma candidature. Et donc, j'avais postulé pour un autre emploi dans les îles. J'avais acheté tout ce qui allait bien pour partir dans les îles et dispenser l'équitation. Et je me suis retrouvé avec mon chef de corps de l'époque qui m'a convoqué en me disant « Voilà, le colonel Durand, écuyer en chef du cadre noir, a retenu votre candidature pour venir ici, à Saumur, travailler aux jeunes chevaux avec un écuyer de l'époque qui s'appelait Monsieur Le Chevalier et qui était un grand maître des jeunes chevaux. Cette opportunité va pas se présenter 50 fois. Vous avez une heure pour prendre votre décision. C'est soit les îles, la mer et le soleil, ou Saumur. » Bon, il m'a fallu 3 minutes pour réfléchir et depuis 40 ans, je suis ici dans cette institution.
Tu as donc troqué les tongs pour les bottes de cheval.
Voilà, d'une paire de bottes bien serrées, bien cirées au quotidien. Et je dois dire que depuis 1982, où j'ai intégré cette institution, j'ai toujours eu la même passion et la même envie d'évoluer chaque jour, puisque notre travail est varié, nous avons beaucoup de missions. Et aujourd'hui, dans mon emploi, l'âge aidant, après avoir fait une belle carrière sportive, une belle carrière d'enseignant, avoir formé beaucoup d'instructeurs, qui maintenant on les appelle les DES, j'ai 3 activités principales. Une activité longue reine, qui me permet de travailler des chevaux qui sont des chevaux, je dirais, ayant un passé plus ou moins lourd et les remettre dans le droit chemin pour les présenter ou les remettre au service des écuries sportives ou de la formation. Un aspect achat de chevaux où j'achète les chevaux pour l'État, donc pour le cadre noir et l'institution, l'IFCE, tous les ans. Donc je sillonne la France avec mes collègues pour essayer de trouver les meilleurs chevaux au meilleur rapport qualité-prix, en fonction de nos besoins annuels. Et puis, dernier élément, toute la partie administrative de gestion des moyens équestres de l'IFCE. Ça va de l'achat de barres pour sauter pour nos chevaux à la gestion des soigneurs qui s'en occupent au quotidien, en passant par les achats de matériel divers et variés pour les uns et les autres.
Parlons de ces chevaux aux longues rênes, comme on dit alors. Qu'est-ce que c'est exactement ?
En fait, lorsque nous achetons nos chevaux à l'âge de 3 ans, on pourrait les comparer à des enfants, je dirais, de 10-12 ans. Et en fait, on ne sait pas comment ils vont évoluer. Ils ont un potentiel technique, ils ont un mental, ils ont des capacités. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, dans nos installations, avec les écuyers, les élèves qui les montent, parfois, nous avons des chevaux qui ont une certaine idée de leur évolution et qui correspond pas obligatoirement à la nôtre. Et donc, en fait, ces chevaux-là ont du mal à trouver leur place. Et quand ils ont fait un cavalier, un écuyer, un stagiaire, tout que l'on a mis tout en place pour faire en sorte que ça évolue bien et que nous n'y arrivons pas, nous sommes un certain nombre, dont je fais partie à l'école, à travailler aux longues graines, c'est-à-dire avoir une autre méthode, une autre approche pour les remettre dans le circuit et avoir des chevaux qui redeviennent coopératifs. Tout cela, bien évidemment, en étant toujours à leur écoute sur un travail plutôt à long terme qui met entre 6 mois et 2 ans.
Ce qui veut dire que ces chevaux, si j'ai bien compris, sont capables de te toiser, c'est-à-dire qu'ils ne te regardent même pas parfois.
Effectivement, quand ces chevaux, je les prends sous ma coupe, souvent ils ont un passé qui est plus ou moins agréable pour eux. Dans un premier temps, les mettre dans un nouvel environnement avec une nouvelle méthode de travail, ils ne comprennent pas obligatoirement. Et quand on les arrête ou quand on se rapproche d'eux, ils tournent la tête. Ils nous toisent et au départ, ils n'adhèrent pas. Donc, et le moyen, puisqu'ils ne parlent pas, de nous dire « Ok, je fais ce que tu me demandes, même si c'est vraiment... » avec douceur et sécurité. Et ils vous disent non. Alors ils tournent la tête, on va les caresser, ils tournent la tête de l'autre côté. Et au fil des semaines, avec le travail, avec la confiance, le côté complicité se gagne jour après jour. Et ils, progressivement, ils tournent la tête jusqu'au jour où ils viennent se coller à nous en nous disant « Ok, on est ensemble ».
Ce pourcentage de chevaux réfractaires, c'est beaucoup, c'est très peu, c'est quelque chose d'assez habituel ou au contraire, c'est assez infinitésimal ?
Sur l'ensemble de la cavalerie du site, c'est-à-dire à peu près entre 250 et 280 chevaux, on a à peu près 1 à 2% de chevaux qui ont du mal à adhérer, et parfois pour des raisons qui nous échappent. Le fait d'être dans un box leur convient pas obligatoirement, le fait de pratiquer une discipline leur convient pas obligatoirement, et parfois des choses que nous ne soupçonnons pas lorsque nous sommes dessus, et le fait de ne plus les monter pendant un certain temps, d'être à côté, de les observer, nous aide très souvent à décoder leur mal-être et à trouver des remèdes.
Parlons de l'achat des chevaux que tu fais pour l'État. Comment ça se passe ? Parce qu'on n'achète pas un cheval comme on achète une voiture ou comme on achète un vélo.
Effectivement, il y a tout l'aspect technique et le côté administratif. Le côté administratif est simple. Nous devons, puisque ce sont des subventions d'État, être le plus logique et clair possible. Et nous faisons appel aux syndicats d'éleveurs dans l'ensemble des régions partout en France. Au début de chaque année, nous leur envoyons des courriers, nous leur téléphonons pour leur faire savoir que nous viendrons sur leurs manifestations pour voir leurs chevaux. Ce sont souvent sur des concours de modèles allures de 3 ans. Nous venons, nous les regardons et nous achetons de gré à gré en passant des contrats avec les éleveurs pour que tout cela se fasse, le plus lisible possible pour tout le monde. Ensuite, nous avons parfois aussi des rassemblements chez des éleveurs qui nous téléphonent pour nous dire « voilà, nous avons vu tel ou tel chevaux, nous avons tel ou tel chevaux » et nous nous déplaçons à plusieurs pour aller voir tel ou tel cheval. Bien évidemment, pour en sélectionner, je dirais, une trentaine par an, il nous faut en voir entre 2 000 et 3 000.
Ah oui, tout de même.
Oui, c'est une partie infinitésimale du cheptel français, mais nous avons nos propres spécificités. Nous avons plusieurs disciplines, hein, entre le concours complet, le saut d'obstacle, le dressage, les sauteurs. Chaque discipline, chaque domaine a sa spécificité et nous devons rester très pragmatiques sur les choix de nos chevaux pour l'avenir.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc on est vraiment dans le top du top.
On essaie vraiment, avec les moyens de l'État, qui ne sont pas démesurés, d'essayer de trouver vraiment les chevaux qui correspondent à notre univers et à notre demande par rapport à nos missions au quotidien.
L'excellence à la française.
Nous essayons au quotidien de mettre en valeur le patrimoine français et d'essayer d'exceller dans nos disciplines.
Alors je reviens sur un mot technique. Tu as dit un cheval 3 ans. Pourquoi cet âge de 3 ans ? C'est parce qu'il est mature ?
L'âge de 3 ans, c'est l'âge où physiquement et mentalement, on peut commencer à leur demander de faire des efforts sans dégrader ni leur physique ni leur mental. Donc au niveau français, les concours de modèles et allures de sélection de chevaux se font à 2 et 3 ans et l'État considère que les acheter à 3 ans pour l'État, c'est une bonne chose, sachant que nos écuyers, dès l'âge de 4 ans, puisque au moment où nous les achetons, nous les remettons au pré pendant quelques mois, à 4 ans, nos écuyers sont là pour les éduquer, les dresser et les amener vers le plus haut niveau.
Je reste dans le jargon, le fameux sel français. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît ?
Le sel français, c'est une race typiquement française. C'est géré par un studbook, qui est le studbook sel français, c'est-à-dire le livre généalogique de la race. Bien évidemment, aujourd'hui, à l'heure européenne, nous avons effectivement du sang importé de plusieurs pays autour de nous, mais nous gardons nos spécificités liées à notre terroir, liées à notre manière de monter, liées à notre culture équestre, et nous essayons en France d'avoir toujours des chevaux intelligents, travailleurs.
J'ai une petite question maintenant par rapport au cadre noir de Saumur. Quelle est l'ambiance ? Quelle est la culture ? culture de l'excellence, ça je veux bien le croire, on en a parlé à l'instant même, mais est-ce qu'il y a une camaraderie, c'est d'origine et d'inspiration plutôt militaire? Est-ce qu'on a ses copains du cadre noir qu'on garde toute la vie? Quelle est la culture d'entreprise?
Le cadre noir, c'est effectivement l'excellence, mais avant tout, c'est une fratrie. Le cadre noir, c'est un corps avec ses propres codes, ses règles, effectivement, ces règles à la base militaire, et c'est extrêmement important parce que ce code militaire fait qu'il y a un certain nombre de règles au quotidien à respecter, des règles de bienséance, des règles de travail, des règles de conduite. Et au quotidien, cela soude les hommes. Alors bien évidemment, comme dans toute famille, on a nos querelles, nos histoires de famille, mais très souvent, nos directeurs successifs, quand ils arrivent au milieu de nous et qu'ils font connaissance avec le cadre noir, au départ, ils s'y perdent parce que on peut parfois avoir beaucoup d'animosité entre nous, mais quand quelqu'un veut essayer de, je dirais, faire le ménage parce que il dirige établissement, ben il s'y perd parce qu'on ne touche pas aux écuyers du cadre noir. Le seul et unique qui, aujourd'hui, peut le faire parce qu'il est là pour ça, c'est l'écuyer en chef. Et l'écuyer en chef est là pour, alors je ne dirais pas materner tout le monde, mais mettre tout le monde en ligne pour aller de l'avant et travailler ensemble.
C'est une grande famille, en somme.
Ah, tout à fait, c'est une famille avec ses départs, ses entrées, ses cooptations, ses affinités, mais devant l'intérêt général, tout le monde s'efface. Et l'écuyer en chef nous répète toujours qu'on ne doit avoir qu'une tête, celle de l'écuyer en chef, et derrière, tout le monde s'efface, dans l'intérêt collectif.
Donc une sorte de général avec ses troupes.
Voilà, c'est ça.
J'apprécie. Comment on rentre au cadre noir aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, les règles sont simples. Il faut qu'il y ait un écuyer qui parte pour qu'il y ait un écuyer qui rentre. Nous sommes aujourd'hui une trentaine d'écuyers. En fait, il y a un concours. Quand un écuyer part, il y a une demande technique, c'est-à-dire que dans telle ou telle discipline sportive, il va manquer telle ou telle personne. Et donc, en fait, on fait un recrutement avec un cahier des charges, avec un certain nombre de prérequis, des diplômes, un niveau équestre, des compétences. Aujourd'hui, les compétences par rapport à il y a une quarantaine d'années ont vraiment évolué, puisqu'il faut savoir parler presque couramment anglais. Il faut savoir manier l'ordinateur parfaitement bien. Il faut avoir un bon niveau d'études pour pouvoir faire des études dans tous les domaines. Être écuyer aujourd'hui, ce n'est pas simplement avoir une jambe de chaque côté du cheval. C'est aussi dispenser des cours à distance aussi. Aller dans des pays étrangers, dispenser de la formation ou parler avec des personnalités. Et aujourd'hui, le rôle de l'écuyer, c'est un petit peu tout ça. C'est faire le grand écart en permanence.
Tu me parlais tout à l'heure de fraternité, de famille. Quelle est la renommée à l'international du cadre noir?
Je crois que dans le monde, lorsque l'on parle du cadre noir, il y a vraiment une image d'excellence et tout le monde connaît le cadre noir. Parfois de manière, anodine, parce que des personnes ont vu une photo, ont vu une image, ou parfois on a des personnes qui, à l'autre bout du monde, ont eu des enseignants qui venaient du cadre noir, ont eu des... Et en fait, c'est une trame qui se tisse depuis maintenant bientôt 200 ans, et où le cadre noir, avec son niveau d'excellence, et je dirais son niveau d'excellence d'éthique, a toujours fait mis en avant le côté rigueur, soin apporté aux chevaux, bien-être animal. Et aujourd'hui, dans un monde où tout va vite, le cadre noir et sa renommée, c'est aussi le temps de faire les choses et le temps de prendre le temps de monter à cheval dans de bonnes conditions.
Patrick, j'ai deux dernières questions pour toi. La première... Quel conseil donnerais-tu à un jeune ou à un moins jeune qui veut rentrer au cadre noir?
Déjà, entrer au cadre noir, je dirais que ce n'est pas de la chance parce que tout le monde peut entrer au cadre noir, si tant est que nous ayons des anciens dont je fais partie qui un jour partiront. Mais il faut toujours y croire. Et dans la vie, il n'y a pas de place que pour les nantis, il y a de la place pour tout le monde. Il faut travailler, Il faut être, je dirais, intelligent dans sa manière de procéder, être vraiment homme de cheval, et puis être, avoir des valeurs, et toujours croire en sa bonne étoile. La preuve, j'en fais partie, hein, des parents qui n'étaient pas du tout dans le milieu, issus d'un milieu parisien, et je me retrouve ici depuis de nombreuses années. Donc, il faut croire en sa chance et travailler.
Alors, tu disais homme de cheval, mais c'est aussi ouvert aux femmes ?
Alors oui, effectivement, bien évidemment, nous avons trois écuyères ici à l'école. Pourquoi 3 sur 30 ? On va nous dire 10%, mais ce n'est absolument pas fermé. C'est-à-dire il pourrait y en avoir 10, que cela ne changerait absolument rien. Je dirais qu'au niveau équitation, une écuyère et un écuyer, il n'y a pas de différence. Il y a peut-être d'autres manières d'arriver à la même finalité, mais le travail de l'écuyer au quotidien est le même que l'on soit femme ou homme. Et effectivement, on a un très beau trio de femmes écuyers qui font les présentations du cadre noir, qui font la formation, qui font du sport de haut niveau, qui font de la recherche. Et donc, en fait, il n'y a aucun problème à recruter des femmes ici dans cette institution.
Heureux de te l'entendre dire. Ma dernière question, Patrick. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ?
Ce que je préfère dans mon métier, c'est, ça vous paraître tout bête, mais c'est le matin quand j'arrive en général d'assez bonne heure, vers 7h, 7h30, et je vais tout de suite aux écuries et mes chevaux sortent la tête par la porte de leur box. Et très souvent, et toujours la même, ils hennissent, ils me regardent, ils attendent que je leur donne une petite poignée d'herbe et ils me disent « bon bah ok, aujourd'hui on est parti pour travailler ». C'est ce qui me motive tous les jours parce qu'être homme de cheval, c'est avant tout aimer les chevaux et tout ce qui va autour, leur monter dessus, les utiliser, leur donner du bonheur, ben ça vient de là. C'est aimer les chevaux avant tout.
Ben écoute, merci à toi Patrick, ce fut un véritable plaisir. J'espère que tu auras donné à nos auditrices et auditeurs l'envie d'intégrer le cadre noir. Alors j'ai bien compris qu'il y en a un qui s'en va, il y en a un qui est remplacé, mais j'avoue que ton témoignage est extrêmement poignant, extrêmement fort. On est dans un pays où ça va un petit peu mal ces temps-ci, tout le monde le sait. Et pas que pour des raisons sanitaires, et je trouve que l'excellence de la France, c'est ce que tu représentes. Tu en es un très digne représentant. Toi, à titre personnel, et j'ai vu aussi Olivier, l'un de tes collègues, si je puis dire, l'un de tes frères d'armes. Enfin, l'un de tes frères, pardon, tout simplement. L'un de tes frères de sel, je sais pas comment on dit, pour être tout à fait sincère avec toi. Mais en tout cas, c'est un véritable plaisir et je te remercie pour l'accueil que tu m'as réservé au cadre noir.
Bah écoute, merci à toi et puis venez nous voir nombreux, nous sommes toujours ouverts à tout le monde.
Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme absolument formidable, en l'occurrence Patrick. J'espère qu'il vous aura donné envie, non seulement de vous lancer dans une très très belle carrière pour la France, mais aussi pour le cheval. Et si vous avez envie d'entendre d'autres personnalités aussi belles et aussi incroyables que Patrick, laissez un petit commentaire, partagez, notez 5 étoiles sur Apple Podcast. Bref, envoyez-nous de l'amour. Cher Patrick, je te remercie.
À bientôt.
Ciao, ciao.